Nous connaissons l'apôtre Paul comme un théologien et puis comme un héros, finalement, donnant sa vie pour témoigner de ce qu'il anime, l'évangile du Christ. Mais la personne de Paul ne nous est souvent pas très sympathique, en fait. Je ne suis pas tellement sûr que nous aimerions partir, par exemple, en vacances avec lui ou même seulement un week-end. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'est pas tellement aimé, finalement, alors qu'il est admiré ? À cause de ces diatribes morales un peu redoutables, parfois dangereuses si elles sont utilisées sans discernement. Peut-être que ce qui nous le rend aussi pas trop sympathique, cet apôtre Paul, c'est simplement qu'il met la barre très haut, aussi bien en termes d'engagement personnel que dans ses développements théologiques bardés de sciences talmudiques, philosophiques, rhétoriques. Mais Paul mérite mieux que cela. Alors j'ai choisi dans la lettre aux Colossiens, donc le dernier chapitre, le chapitre final de cette lettre, et on y voit que Paul est un véritable ami, qu'il y met de la chaleur. Et j'ai choisi ce passage donc en écho à ce que disait Claire Alice, que veut mettre de la chaleur finalement, du cœur dans ses relations, dans son cheminement. Alors oui, on voit dans cette dernière partie de la lettre aux Colossiens, qui fait quand même un quart, plus d'un quart de la lettre en fait, qu'il sait mettre ses amis en confiance, qu'il sait pardonner, qu'il sait dire son émotion, qu'il sait dire du bien, qu'il cherche à mettre en relation les uns avec les autres. Et donc je trouve que ça mérite d'être redécouvert finalement, cette facette de l'apôtre Paul. Alors c'est à la fin, donc dernier chapitre, chapitre 4 des Colossiens, l'apôtre Paul, après avoir fait plein de théologie, avoir donné des conseils, parfois très pratiques, nous dit cela. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous et que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc là, il est encore dans les conseils. Et ensuite vient une salutation où pas moins de 12 personnes sont citées. « En ce qui concerne Tychique, le frère bien-aimé, le fidèle serviteur du Seigneur et mon compagnon dans le service du Seigneur, il vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui le meilleur accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ces trois sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été pour moi un vrai réconfort. Épaphras, votre compatriote, vous salue. C'est un serviteur du Christ Jésus, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, et pleinement vivant de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Alors je lui rends ce témoignage qu'il prend tellement de peine pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Que cette lettre, dès qu'elle aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle le soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous, vous lisiez également ce que vous arrivera de Laodicée. Et puis dites à Archippe, prends garde au service, à la mission que tu as reçue du Seigneur, afin de bien la remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Vraiment, que la grâce soit avec vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose, puisque Paul nous dit d'être dans l'action de grâce, de chanter le psaume 118, donc toujours dans notre psautier français, psaume qu'on appelle le grand Alléluia. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Alors je vous propose de chanter la première strophe, et puis les deux dernières, 1, 5 et 6. Seigneur, donne à chacun de nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Oui, Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume, un royaume de justice et de paix, un royaume chaleureux et fraternel, en annonçant, en guérissant, en parlant, en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source toujours de nouveauté de vie. Paul n'est donc pas qu'un formidable théologien, il a un vrai don, il a une passion pour l'amitié. La preuve, c'est que donc dans cette lettre aux Colossiens, qui fait seulement 4 chapitres, toute la première partie du chapitre 1 et pratiquement tout le chapitre 4 ne sont que des salutations, des amitiés, des pensées, des félicitations, des encouragements à aller vers les uns vers les autres, à accomplir sa mission, à passer par-dessus les rancœurs, les esprits de caste. Mais nous passons souvent ces paroles de salutation qui sont au début des lettres de Paul, et souvent à la fin aussi. Nous les passons comme quand nous recevons un courrier, nous passons sans même le lire les formules de politesse qui sont à la fin, vous savez, veuillez agréer l'expression de ma considération distinguée ou je ne sais pas quoi, qui est en usage dans notre culture. Alors c'est vrai que ça se faisait de mettre une petite salutation à la fin, mais là il y a plus, si vous voulez, que je vous prie d'agréer, etc. Les Colossiens, ils avaient besoin de conseils finalement et d'une petite remise à niveau théologique. Paul remplit le job parfaitement en quelques pages magistrales qui méritent d'être lues aussi, bien sûr. Parce que la question, c'est que dans cette église de Colosse, donc apparemment, quelques chrétiens très actifs, un peu trop autoritaires, veulent imposer leurs opinions, leurs rites, leurs pratiques chrétiennes, leur théologie, leur façon d'interpréter la Bible pour faire un petit club de gens bien comme il faut. Paul montre que vouloir imposer cela, c'est prendre la place du Christ, alors que c'est lui qui doit être le chef, nous dit-il, la tête par qui tout le corps est soutenu et solidement assemblé par des jointures, des ligaments, des articulations, et puisse ainsi grandir d'une croissance qui vient de Dieu lui-même. Alors quand Paul dit ça, et c'est encore des remontrances, c'est encore de la théologie, je veux dire, affirmée, une théologie sûre, une théologie intéressante, hein, bien sûr. Il donne aussi ensuite quelques petits conseils très pratiques qui se terminent donc par le court résumé en 3 points qui ouvre la conclusion de cette lettre. Alors je vous ai lu cette conclusion en 3 points. Alors c'est plus vraiment de la théologie, ces conseils, je dirais que c'est déjà plus concret que ça. C'est plus une sorte de théologie abstraite, ça devient comme une hygiène de vie qu'il nous propose, quelque chose qu'on peut ruminer chaque jour, méditer pour que cette façon d'être qui est le Christ puisse infuser en nous. Alors Paul donne 3 points. Le premier point essentiel qu'il propose ici, c'est de persévérer dans la prière, et plus précisément dans l'action de grâce. Alors je trouve que c'est un bon conseil, voilà, on n'est pas forcé de suivre ce que dit l'apôtre Paul, mais ça je trouve que c'est pas mal. C'est comme une invitation à voir ce qu'il y a déjà de génial dans notre vie et d'essayer de le faire devant Dieu, parce qu'on sait bien que c'est difficile d'avoir parfois un regard positif. Mais c'est une façon de lâcher un peu prise, de faire tomber la pression de notre impatience, de notre exigence, et puis celle de nos manques aussi, pour s'ouvrir à ce qui est déjà tout beau, quoi, finalement. Alors le second conseil essentiel que donne Paul ensuite, c'est de se comporter avec sagesse avec ceux qui sont du dehors et de valoriser l'instant, de racheter le temps. Alors là, on voit cette notion de ceux qui sont dehors. Alors effectivement, pour ces gens qui étaient bien, une église bien ferme, bien affirmée, avec une théologie, avec des rites, avec une morale, ça a son sens, effectivement. Alors Paul conseille d'aller vers ceux qui sont dehors et donc de tisser des liens, de huiler les articulations si elles étaient trop raides ou si même elles avaient disparu, et effectivement de le faire à l'intérieur de l'Église, mais aussi avec ceux que l'on croit être à l'extérieur finalement, là où le corps se délite, comme celui peut-être d'un lépreux qui, paraît-il, perd des doigts, des pieds, des oreilles, un nez. Et donc finalement, cette Église de Colosse, il se croit pure en étant du dedans, et les autres sont des mécréants qui sont à l'extérieur, qui sont du dehors. Mais finalement, Paul, en disant ça, il dit que ce sont eux, finalement, les lépreux qui perdent leurs membres à l'extérieur. Et donc Paul nous appelle à un travail tout en souplesse et en réactivité, où aucune règle absolue n'est plus possible. Il faut valoriser l'instant, nous dit-il. Et donc c'est plus une sagesse de recette, de morale absolue, de rite bien fixe, c'est plutôt de la débrouillardise, avec le sens pratique du paysan qui est capable de réparer son tracteur avec le bric-à-brac de morceaux de trucs qui sont restés devant la porte de la grange, finalement. Alors cette façon d'être que nous propose l'apôtre Paul, cela demande de regarder, d'aimer, de réfléchir, d'inventer, et au cas par cas, il n'y a que des cas particuliers. Valoriser l'instant unique. Alors le troisième et dernier point essentiel que Paul propose ici encore dans cette petite théologie pratique avant de passer à la chaleur des salutations, ce troisième point c'est que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et donc au cas par cas, là encore, répondre à chacun. Alors pour répondre, cela demande d'abord d'écouter, bien sûr. Écouter ce que dit l'autre, sinon c'est pas lui répondre, c'est encore lui faire de la théologie toute faite. Donc, l'écouter, et puis plonger cela dans une grâce qui cherche à comprendre, à pardonner et à servir. Alors il est peut-être temps d'une parole, et Paul propose qu'elle soit assaisonnée de sel. Une parole donc qui n'est pas dupe de la mauvaise part qui existe bien sûr chez l'autre comme chez moi et puis dans nos relations bien sûr. Saupoudrer de sel comme on le fait sur du jambon ou sur du fromage pour neutraliser les germes et pour garder le meilleur, ce qui est vraiment nourrissant. Donc Paul nous propose, voilà, au-delà d'une théologie abstraite, formidablement élevée, la prière persévérante et positive, l'action ouverte et pleine de bon sens au cas par cas, et puis une parole pleine de grâce, assaisonnée de sel, dans un dialogue avec chacune et chacun. Voilà une théologie pratique, concrète, que nous propose l'apôtre Paul. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un devoir, mais d'une source d'inspiration, une source de méditation. Alors nous avons l'habitude d'entendre Paul sur ce registre. Alors oui, pour les conseils, il est hyper bon. Nous étudions, nous discutons souvent ses conseils et ses féconds à condition de les mettre en pratique, comme le dit souvent Jésus en rythmant son discours. Mais justement, c'est bien ça le problème finalement. C'est d'arriver à ce que notre belle théologie puisse s'incarner concrètement dans notre vie telle qu'elle est. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute autre chose à ces bons conseils qui ne suffiront pas bien sûr à faire progresser qui que ce soit. Il le sait bien, l'apôtre Paul, lui, qui dit « Le bien que je veux faire, je le connais très bien, mais je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que j'arrive toujours à faire. » Et donc, vient comment faire ? Vient alors cette longue série de salutations chaleureuses et d'invitations à tisser des liens par le cœur, les uns, avec les autres. Et cela nous encourage à mettre de la chaleur dans notre façon de vivre, sinon rien n'avancera, en fait. Les gens qui sont autour de nous ne sont pas que des arbres. Ce ne sont pas non plus que des machines qui remplissent une fonction. Ce ne sont pas que des personnes parfois agréables, parfois pénibles. Non, ce sont des humains qui ont un cœur, même s'il est parfois bien caché, même si parfois il est soumis à l'arythmie, à la tachycardie. Donc ce sont donc des personnes qui ressentent, qui espèrent, qui pensent, mais en plus que nous le voulions ou non, nous dit l'apôtre Paul, nous faisons partie d'un même corps. Ce sont donc des membres de notre corps. Et pour que le corps marche, eh bien, il faut tisser des liens et des articulations, et ça se tisse par de la chaleur, par de la fidélité, par une liberté accordée à l'autre. Et pour établir cela, l'intellect aide grandement, parce que ça joue beaucoup dans la liberté que nous avons dans l'essayer de progresser, d'avancer. L'exercice quotidien permet de travailler cela aussi par une mise en cohérence, cas un cas, comme on peut. Mais surtout, il y faut des sentiments, en plus des deux premiers, de la théologie et de l'exercice quotidien. Des bons sentiments. Et finalement, l'Évangile, c'est tout ça. Et Paul suit les traces du Christ en étant à la fois l'enseignant, le marcheur, pas à pas, et puis aussi l'ami. Alors les chrétiens de Colosse, il y a à redire, mais ils sont pas mal du tout, en tout cas selon Paul, qui sait mettre en avant leur bon côté, le bon côté des gens, et c'est pas de la flatterie, parce qu'il sait très bien leur dire aussi ce qui ne va pas. C'est peut-être ça, une parole pleine de grâce, assaisonnée de sel. C'est ce qu'on peut faire avec un véritable ami, finalement. Et c'est la base même de l'amitié que de pouvoir ainsi être en relation, à la fois que ça soit baigné dans la grâce, mais qu'il y ait ces petits grains de sel. Alors mettons quand même beaucoup de grâce et une pincée de sel, parce que sinon ça rend la soupe un peu difficile à avaler, oui. Mais cette longue série de salutations chaleureuses, c'est vraiment, elle est entièrement pleine de grâce. La pincée de sel, ou la bonne cuillère de sel, Paul l'a mise dans la partie théologique, qui est dans la première partie de la lettre, finalement. Dans cette partie chaleureuse, il n'y a plus de sel. Comme pour dire que ce qui ne va pas entre nous, on en discute, mais que ça n'atteint pas l'amitié, le respect, la fidélité. Et c'est particulièrement flagrant pour 4 personnes quand même, parmi les 12 personnes qui sont citées dans la lettre. Paul s'était senti cruellement trahi par Marc et Barnabé quelques années auparavant, on le sait, par le livre des Actes, au point de rompre complètement avec eux pendant plusieurs années, alors qu'ils étaient si proches avant, dans la première partie du livre des Actes. Donc un énorme grain de sel dans leur relation. Mais au moment de cette lettre, la grâce a finalement pris le dessus, et puis Paul associe donc Justus à Marc et Barnabé, tous les 3 étant donc dans la sensibilité chrétienne qui considérait qu'on devait absolument continuer à suivre la cache-route, donc les préceptes, les lois religieuses très strictes de la loi de Moïse, et qu'on devait l'imposer aux athées, aux païens qui rejoignaient l'Église chrétienne. Paul, au contraire, était favorable à ne pas imposer cela ni à ceux qui viennent donc du paganisme, ni aux juifs libéraux comme lui, et que chacun fasse finalement comme bon lui semble. Et donc nous avons là, entre Justus, Marc et Barnabé, et puis Paul, nous avons là 2 sensibilités très contradictoires finalement, sur un point essentiel de la religion, sur la définition de ce qu'est être chrétien, être du dedans ou du dehors, sur le statut de la Bible et la façon de l'interpréter, mais encore sur ce qui compte pour Dieu, sur la place de la grâce dans l'économie du salut, comme on dit, celle de la foi, celle des œuvres. Donc il y a largement de quoi se disputer, finalement. Au contraire, Paul dit que ces 3 hommes ont été pour lui un grand réconfort et qu'il faut les accueillir chaleureusement. Donc l'œcuménisme ne date pas d'aujourd'hui. Même s'ils ne sont que quelques-uns, finalement, à transgresser ainsi les frontières, nous dit l'apôtre Paul, pour travailler ensemble dans le royaume de Dieu, il y a là, nous dit-il, un grand renforcement. Paul parle en fait d'être co-ouvrier, synergoi, travaillant en équipe de façon complémentaire avec chacun, sa diversité finalement, et même en travaillant de façon organique, c'est-à-dire comme des cellules différentes dans un même corps. Et donc co-ouvrier, non seulement comme collègue de travail dans un job, mais un seul même ouvrier par Christ et en Christ, un seul même ouvrier dont nous sommes des membres particuliers finalement. Alors bien sûr, c'est important du point de vue théologique, mais pour cette théologie qui s'incarne dans la vie réelle, il faut de l'amitié, il faut de la chaleur, il faut du pardon, il faut de la parole pleine de grâce, assaisonnée de sel. Eh bien, c'est ce que fait Paul dans un vrai travail que révèle cette longue suite de salutations. Il y a encore un personnage qui est cité, le 4e personnage cité, qui demande pas mal de grâce et pas mal de sel dans le cœur de l'apôtre Paul pour le citer, c'est Démas. Paul ne trouve rien de bon à dire sur lui, mais quand même, il le cite dans cette liste, alors que Démas s'éloigne déjà pour vivre en dehors de la foi, pris par les affaires de ce monde. C'est ce qu'on apprend par la 2e lettre de Paul au Timothée. Et donc c'est peut-être un geste qui coûte à l'apôtre Paul, mais qui est plus important qu'il ne semble. Et donc au total, il y a 12 noms qui sont cités dans ces salutations. 12. C'est possible que ce soit une coïncidence, mais sous la plume d'un grand connaisseur de la Bible qu'est l'apôtre Paul, c'est plausible que ce soit voulu, parce que sans cesse la Bible joue sur le nombre de termes dans une liste, au point que c'était un réflexe en lisant la Bible, de les compter sur ses doigts. Donc 12 personnes, c'est alors une figure de l'humanité tout entière, de l'humanité bénie par Dieu. Et c'est alors un signe important, finalement, ce 12, disant que ce cercle de personnes forme un ensemble et que nous ne pouvons en oublier un seul, parce que ça ferait plus que 11 et que donc ça boiterait. Ça ne ferait plus ce nombre 12. Même si certains sont plus utiles et plus amis que d'autres, comme Tychique ou Épaphras, même si certains trahissent ou abandonnent, comme Démas, Paul reconnaît, en le citant, qu'il a sa place indispensable dans le corps pour faire 12, et que s'il venait à se séparer du corps, eh bien sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour le recevoir. Et effectivement, là, il y a quelque chose de la grâce qui se dit. Et il y a de tout dans cette liste amicale que propose l'apôtre Paul. Il y a aussi Onésime. Onésime qui n'est qu'un esclave, et il faut voir ce que ça peut représenter à l'époque. Et même son nom, Onésime, ça fait de lui comme un simple accessoire. Onésime, ça veut dire un truc utile, et donc ce n'est pas vraiment peut-être son nom, c'est juste un surnom qu'on donnait à un esclave utile, voilà. Paul le décrit, pourtant, comme le fidèle et bien-aimé frère. Trois mots extraordinaires, en fait. Il est fidèle dans les deux sens, fidèle en amitié, et puis fidèle à Dieu. C'est le même mot, la foi, la fidélité. Et il est frère. Frère, ça dit une nature, un fait irrésistible. On ne choisit pas ses frères. Et il est bien aimé. Et donc ça, c'est plein de tendresse. Et donc quand Paul dit aux Colossiens qu'Onésime est des vôtres, c'est mal traduit en disant que c'est leur compatriote. Non, c'est marqué des vôtres. Et c'est là aussi un fait, puisqu'il est effectivement leur compatriote, mais ce sont aussi les qualités que Paul reconnaît à Onésime, que Paul dit reconnaître aussi chez les Colossiens, finalement. Ils sont aussi des frères qu'on ne choisit pas parce qu'ils font partie du corps, mais ils sont aussi des amis fidèles. Ils ont aussi une foi fidèle à Dieu et ils sont aussi bien aimés. Et donc Paul les salue avec chaleur, avec cœur. Alors dans la liste, il y a aussi Nympha qui est une femme, chef d'église. Alors le fait qu'elle soit une femme a plus tard gêné. Certains manuscrits ont masculinisé son nom. Bon, j'ai vu l'autre jour des statuts de l'oratoire en 1913, il y a bien marqué que seuls des hommes peuvent être au conseil presbytéral. Donc vous voyez, même nous, on doit relire ces textes et puis on a mis près de 19 siècles pour percuter un peu le coup. Mais c'est, on se soigne, si vous voulez. Et puis, il y a donc ces deux hommes que Jésus couvre de louanges, ce qui nous permet de voir son émotion, mais aussi ce sur quoi l'apôtre Paul compte le plus pour faire progresser le corps du Christ. Donc Tychique, celui qui est le plus félicité au début, il est chargé de trois missions. Apporter la lettre de Paul aux Colossiens, donc, mais aussi leur parler. Il leur dit, écoutez bien ce qu'il va vous dire, il vous dira plein de choses aussi. Et donc ça montre la confiance de Paul, il ne verrouille pas tout. Il sait que l'écrit ne suffit pas, la lettre ne suffit pas, il faut l'oral, il faut la parole, il faut la chaleur, il faut l'adaptation aux circonstances, il faut l'interaction, il faut les nouvelles des amis, il faut le cheminement ensemble. Donc la lettre, la parole, les échanges, et puis une troisième mission, c'est celle d'encourager. De les encourager, c'est ce que reçoit Paul, Tychique, comme mission de la part de Paul. Alors ce troisième verbe, finalement, encourager, ça semble un peu banal, un peu tapé dans le dos pour dire ça va aller, mais en fait c'est plus que ça. Le verbe parakaleo, c'est ce verbe essentiel, finalement, de l'appel de Dieu selon Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple. Criez-lui que son esclavage est fini, que son iniquité est lavée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, donc une grâce surabondante. Ce verbe, c'est aussi celui du mot paraclet, le Saint-Esprit qui fait, avec de simples disciples à moitié nuls, en fait des apôtres et des prophètes. Et donc, Paul donne à Tychique cette triple mission, une visite de la théologie intelligente, des échanges, de la chaleur, de l'amitié qui encourage dans tous les sens du terme. Une simple parcelle de vraies relations peut effectivement faire l'effet du Saint-Esprit tombant sur une personne. Alors la deuxième personne que Paul admire chaleureusement, c'est Épaphras, et je terminerai là-dessus. Lui, c'est par la prière qu'il agit. La prière est un combat, c'est un bon combat, nous dit l'apôtre Paul. La prière est aussi une chaleur, elle est aussi une affection qui change notre cœur. Il ne s'agit pas à travers la prière de faire bouger le bras de Dieu, bien entendu, en priant, bien sûr que non. Heureusement que non, d'ailleurs, parce que sinon Dieu ferait n'importe quoi. Et puis ce serait comme marcher sur la tête de penser que nous faisons bouger le bras de Dieu avec notre prière. C'est lui la source ultime de tout et nous ne sommes qu'une pâquerette. Mais il s'agit de faire équipe ensemble nous et ensemble avec Dieu, de répondre présent à son souffle et de faire paraclet ensemble sur l'ensemble du corps. Alors l'idéal serait que nous soyons ainsi les uns pour les autres, dans nos petits cercles et avec ceux qui sont en dehors de nos cercles finalement, ce que Paul dit d'excellent sur ces hommes, Tychik et Épaphras. Il nous dit que dans le Seigneur, ils sont à la fois un frère bien-aimé, donc quelqu'un qu'on n'a pas choisi comme un frère, mais que l'on aime vraiment, et pour ça, il faut y mettre du cœur, de la chaleur, des paroles. Dans le Seigneur aussi, nous reconnaissons mutuellement comme de fidèles ministres, nous dit Paul, chacun ayant sa foi, sa vocation, son point de vue légitime, sa parole, son témoignage, et pour cela, débattre et nous encourager mutuellement. Et puis dans le Seigneur, enfin, que nous soyons co-serviteurs, membres d'un même corps, retroussant nos manches pour travailler au royaume de Dieu, bâtissant une humanité qui soit un corps plein de chaleur, d'intelligence et de vie. Amen.